bonsoir à toutes et à tous. C'est mercredi, il est 20h et c'est Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. A tout de suite. Eh bien, donc, rebonsoir à toutes et à tous. C'est Idées Noires, comme je disais tout à l'heure, comme tous les mercredis, de 20h à 21h, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et tout de suite, on va commencer par quelques annonces. Avec ce vendredi 18 décembre, donc vendredi prochain, avec un rassemblement de soutien à nos camarades résistants et résistantes du Kurdistan. C'est à 17h30, ce rendez-vous devant le consulat de Turquie pour dénoncer les massacres et toutes les attaques de l'État turc dont sont victimes la population kurde qui a, on peut le dire, un ennemi devant et un ennemi derrière, c'est-à-dire devant c'est Daesh et derrière bah, c'est l'État turc évidemment. Ce rassemblement montrera donc notre solidarité et notre fraternité. Ce consulat turc ou l'ambassade, non c'est un consulat je crois hein, plutôt qu'une ambassade. C'est 87 rue de 16 à Lyon dans le 6e arrondissement et donc je rappelle l'heure, c'est 17h30.
Ouais, je vous lis du coup le petit truc maintenant parce que c'est en rapport. Parce que du coup à Paris aujourd'hui il y avait une manif à 16h sur le même mot d'ordre. Je vous lis juste du coup le texte parce que du coup ça détaille un petit peu plus la répression que connaissent ces camarades là-bas. Donc depuis août dernier, 52 couvre-feux ont été décrétés par l'État turc dans plusieurs localités kurdes sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Les forces de sécurité turques ont tué des centaines de civils durant ces périodes de couvre-feu, assure Nusaybin Sizre Silopi Silvan. On ne compte plus les morts. Les bombardements incessants des forces de sécurité ont par ailleurs entraîné de lourds dégâts matériels. Outre les habitations, ce sont des monuments historiques qui sont touchés, surtout dans le quartier de Sur qui abrite un patrimoine culturel extrêmement riche. Parallèlement à ces massacres de civils, les autorités turques tentent d'étouffer la volonté politique des Kurdes en arrêtant des militants et des représentants politiques. Selon un rapport récent de l'Association des droits de l'homme de Turquie, rien qu'au cours de l'année 2015, cette répression politique s'est soldée par plus de 6000 arrestations de militants kurdes, dont près de 1300 ont été incarcérés. Parmi ces derniers figurent 17 maires et de nombreux autres élus locaux. Par ailleurs, depuis le mois de juillet, l'armée turque bombarde sans cesse les positions du PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, au Kurdistan d'Irak. Bien que ces incursions répétées constituent une violation grave de la souveraineté territoriale du gouvernement régional du Kurdistan et de l'Irak, la Turquie continue à agir dans l'impunité. Toutes ces opérations tendent à éliminer les Kurdes politiquement et militairement. C'est dans ce même objectif que le gouvernement turc de l'AKP apporte un soutien à Daesh. En renforçant Daesh, il espère affaiblir les forces kurdes qui luttent en première ligne contre cette organisation en Irak et en Syrie. Depuis peu, de nouveaux couvre-feux sont imposés dans deux districts de la province de Sirnak, Sizre et Silopi, où ont été réalisés d'importants déploiements de policiers et de militaires. Craignant de nouveaux massacres, beaucoup d'habitants de ces deux villes ont décidé de partir. Cependant, partout où ils sont attaqués et réprimés, les Kurdes s'organisent et résistent. Ils ne reconnaissent plus la légitimité de cet État qui nie leur volonté politique. C'est ainsi que plusieurs villes kurdes ont déclaré l'autonomie. Et donc pour cette manif qui avait apparu cet après-midi, c'était « Nous exigeons la fin des massacres, des opérations militaires et de la répression politique contre les Kurdes. Mobilisons-nous pour dénoncer la politique turque de terreur et de guerre et solidarité avec la résistance kurde. » Donc nous, on pourra faire du coup, voilà, donc ce vendredi 17h30 devant le consulat de Turquie, 87 rue de 16, dans le 6e arrondissement.
Voilà. Autre annonce, eh bien, ça pour nos camarades de la librairie libertaire La Griffe, qui nous propose et vous propose donc une conférence dédiée à Joseph Déjac, peut-être mal connu de Joseph Déjac, le libertaire, eh ben c'est lui, c'est un authentique prolétaire, nous dit sa biographie, moi je préfère ouvrier anarchiste et poète, le libertaire, ben le journal, c'est lui aussi, paru aux États-Unis, continent de son exil, c'était en 1858 hein, quand même. Donc voilà, et je citais simplement des paroles de Déjac, donc je cite « Le libertaire n'a pas de patrie, que la patrie universelle. Il est l'ennemi des bornes, bornes frontières des nations, propriété d'État, bornes frontières des champs, des maisons, des ateliers, propriété particulière, bornes frontières de la famille, propriété maritale et paternelle. » Voilà, donc Joseph Déjac, à connaître un petit peu plus, ça sera ce samedi 19 décembre à 15h à la librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe, dans le 7e arrondissement, pour dire simplement que Joseph Déjac, eh ben, c'est du 19e siècle, hein, avec Élisée Reclus, Louise Michel, Proudhon, etc., Bakounine, enfin voilà, toute une époque qui sera décrite, je pense, cet après-midi, donc du samedi 19 décembre. On passe une petite musique
ouais,
là-dessus.
Après,
bon,
ouais.
Ça leur fera plaisir aussi. C'est nos camarades, on peut le dire, hein, de Les Concasseurs, qui est un groupe musical punk du Bugey. Voilà, donc on va passer Les Concasseurs.
Suicide au travail, suicide au travail.
Voilà, donc les Concasseurs, groupe punk du Bugey, et on va commencer par une première page.
Oui, voilà, donc on est parti pour cette première page. Alors, un petit article que je voulais vous lire la semaine dernière, donc il a sûrement déjà été... D'autres noms sûrement causés, mais je voulais quand même faire le refaire quand même parce que c'était assez flagrant. Donc vous savez tous et toutes qu'il y a eu des élections récemment et qu'il y a certains qui sont intéressés, notamment, donc là c'est pour le premier tour, mais j'espère que l'étude sera faite aussi pour le second tour parce qu'à mon avis ça va être aussi flagrant que cela, bah, que du coup le Front National a fait un carton plein, et notamment dans les casernes des gendarmes mobiles et des gardes républicains. Donc il y a une analyse du coup des scrutins du premier tour des régionales qui a été fait dans quelques casernes de gendarmes mobiles, voilà, garde républicain, en Île-de-France et ailleurs, voilà, par deux personnes, hein, Marc Piccolo et Jeanne Debuis, bah, c'est assez, voilà, hein. Vous allez voir ça, hein. Après avoir souligné les accointances publiques et assumées entre CRS et FN, bah, ils sont penchés ce coup-ci, donc, sur les gendarmes, et plus spécifiquement sur les gendarmes mobiles et gardes républicains. Voilà, en juillet 2014 était publiée une étude de l'IFOP qui démontrait le vote très bleu marine, hein, des gendarmes mobiles et gardes républicains lors des présidentielles de 2012. L'IFOP avait analysé les résultats de 2012 dans les bureaux de vote, abritant dans leur périmètre une caserne de la gendarmerie mobile en milieu urbain. Voilà, contrairement au CRS, les gendarmes mobiles résident avec leur famille dans les locaux de la caserne. La concentration de ces effectifs entre guillemets gendarmiques offre ainsi une possibilité de pouvoir évaluer la réalité du vote. Donc ils ont repris la même méthode, ces deux personnes, pour analyser le scrutin du premier tour des régionales. Voilà, l'étude est loin d'être exhaustive, mais cet échantillon laisse observer un constat sans appel. En Île-de-France, voilà, les gendarmes mobiles et gardes républicains ont voté massivement Front National. À Versailles se trouve le groupement blindé de gendarmerie mobile. Le bureau de vote numéro 10 de la ville constitue de ce point de vue un cas exceptionnel et très précieux de bureau chimiquement pur, entre guillemets. En effet, ce bureau de vote situé à proximité immédiate du camp de Versailles-Satory présente la particularité de ne compter que des gendarmes et des membres de famille de gendarmes sur sa liste électorale. Et bien là-bas, 61,85% des électeurs gendarmes ont choisi le candidat bleu marine, hein, c'était Valéran de Saint-Just par là-bas. Partout, à l'exception du bureau numéro 11, proche géographiquement de la caserne, le score du FN plafonne à 15-20%. Si la ville des Yvelines a voté à elle à 15,95% pour le FN, ce dernier pourra toujours se consoler en admirant son score dans le bureau de vote des gendarmes, près de 62%, soit 274 votants sur 453. À Nanterre, dans le 92, le bureau numéro 14 est lui aussi chimiquement pur car il est constitué uniquement de la caserne des gardes républicains avec leur famille. Et là, 51,83% des cognes ont ainsi voté pour le FN. Là aussi, le score est surprenant, enfin ou pas, hein. En effet, nulle part ailleurs dans la ville, le FN obtient plus de 25%. À Nanterre, le Front National obtient 16,87, mais plus d'un garde républicain sur deux a voté, donc du coup, pour l'ami fidèle de Jean-Marie Le Pen. Enfin, sur Paris, le bureau numéro 46 du 13e correspond aux habitations du boulevard Kellermann, dont dépend la caserne des gardes républicaines et de leur famille. L'analyse du scrutin doit prendre en compte cette, entre guillemets, dilution avec les populations classiques. Néanmoins, c'est sur ce bureau que le FN fait plus de 20%. C'est également dans le 13e que Saint-Just fait son meilleur résultat sur Paris. On vous laisse soin d'en tirer les conclusions. Nous avons, donc les deux personnes qui ont fait cette étude, également étudié deux autres bureaux de vote à proximité d'une caserne de gendarmes mobiles en province. Donc c'était Orléans et Grenoble. Et là encore, le constat est saisissant. À Orléans réside l'escadron de gendarmerie mobile 41-3. Sa caserne est située boulevard Marie Stuart. Le quartier est en partie rattaché au bureau de vote 39 et le FN y est en tête avec 30%. Tandis que l'ensemble d'Orléans a voté, lui, 18,5% pour le candidat frontiste. C'est dans le bureau de vote où habitent notamment des gendarmes mobiles que le FN obtient son meilleur résultat. Coïncidence encore une fois, question posée. Enfin, Grenoble, ville escadron gendarmerie mobile 24-5 dans une caserne avenue Léon Blum. Bah, les gendarmes et leur famille votent au bureau numéro 4072. Là encore, c'est un bureau mixte regroupant à la fois nos amoureux de la matraque et population du quartier. Ici, le Front National culmine à 38,56% des voix, tandis qu'à l'échelle municipale, il fait seulement 15,7%. C'est encore une fois dans ce bureau, lié aux gendarmes, que le FN obtient de loin son meilleur score. Alors toujours une coïncidence ou pas ? On entend parfois certaines personnes prêcher la douce parole derrière leurs boucliers et leurs apparences de Robocop se cachent des êtres humains. Oui, c'est vrai, et en plus de jouer au Robocop, ce sont des petits êtres sensibles, mais sensibles aux idées puantes d'extrême droite. Donc voilà, et ils précisent dans un petit PS sur cet article-là, sur cette étude, que leur modeste analyse, hein, ne comptabilise pas les voix des Républicains, ex-UMP, de Debout la France ou encore de l'UPR. Donc voilà, on aurait pu en rajouter encore des pourcentages. Donc voilà, hein, quand on dit voilà qu'ils aiment nous cogner dessus, c'est pas pour rien non plus. Hein, voilà, c'est qu'ils des convictions politiques derrière aussi.
Bah, le bleu marine
leur va très bien, c'est pas pour rien,
c'est
non plus
leur, leur costume, hein.
Voilà, hein. Et je voulais enchaîner du coup avec bah, des ennemis, hein, du Front National et de ces flics là, enfin priori tous les flics pratiquement. Donc c'était Des petites brochures qui ont été faites. Alors, ça casse pas des briques, mais c'est plutôt pas mal. Ça s'appelle le réseau d'information et de documentation pour la solidarité et le développement durable. Et du coup, ils ont fait plein de petites fiches, notamment pour répondre aux préjugés. Donc, je vais vous en détailler deux, parce qu'il y en a deux qui sont sortis pour le moment, il me semble. Du coup, la réponse au préjugé numéro un, c'était on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà, bah, vous le savez que du coup, ce truc-là, on l'entend un peu tout le temps, hein, à chaque rassemblement, à chaque distribution de tracts, à chaque fois qu'on aborde le sujet, voilà, de l'accueil des migrants et des migrantes, bah, on nous dit soit vous avez qu'à les accueillir chez vous, soit on ne peut pas du coup accueillir toute la misère du monde. Et ben donc voilà, ils sont bien loin d'être fidèles à l'arrêté des migrations, ces propos-là. Donc on va faire un petit point. Donc notre planète est peuplée de sédentaires. Voilà, seulement 3,2% de la population mondiale est considérée comme migrante. En effet, sur 6 milliards d'êtres humains, seulement 232 millions de personnes vivent en dehors de leur pays d'origine, dont 85% en situation régulière. Où est donc l'invasion ? Les migrants ne viennent pas, comme certains le disent, envahir les pays développés. Les migrations sud-sud dépassent légèrement les migrations sud-nord, car les migrants ont en général une faible capacité de mobilité. Ils ne peuvent pas assumer notamment les coûts d'une migration vers les pays riches d'Europe, d'Amérique ou d'Asie. La plupart du temps, ils trouvent donc un refuge dans les pays voisins. Et que les migrations aussi ont toujours existé. C'est l'espoir d'une vie meilleure qui pousse les personnes sur les chemins de la migration, hein, soit à cause des guerres, des dictatures, des persécutions politiques, ethniques ou religieuses, les territoires ravagés par les catastrophes naturelles et les changements climatiques, la grande pauvreté, etc., 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 justifient bien souvent leur départ. Dans certains pays, il y a une vraie désespérance. Quand on ne peut pas améliorer sa situation, qu'aucune perspective n'est imaginable, qu'il y a de la corruption, l'oppression, alors le départ apparaît comme la solution. Mais le voyage coûte cher et ce sont rarement les personnes les plus pauvres qui peuvent partir. En France, par exemple, la population étrangère est composée pour 25% de diplômés de l'enseignement supérieur, un chiffre exactement comparable à l'ensemble de la population non immigrée. Ce n'est pas vraiment toute la misère du monde, du coup. De façon générale, les niveaux de formation et de qualification des étrangers qui migrent dans les pays développés ne cessent de progresser. Par ces différentes lois sur l'immigration, la France donc a, entre guillemets, choisi, malheureusement, ses migrants sur des critères économiques de préférence avec un bon niveau de formation. Ingénieux pour pallier, par exemple, le manque de médecins dans les campagnes françaises. Et puis vous aussi rappelez que c'est aussi un héritage colonial. Si les Algériens, les Marocains, les Maliens ou les Sénégalais viennent plutôt en France, bah c'est parce que leur pays faisait partie de l'empire colonial français. Entre le 15e et le 18e siècle, la France a pratiqué l'esclavage et la traite des Noirs. Au 16e siècle, elle s'est lancée dans la bataille coloniale en Amérique, des Antilles, au Québec, puis sous le Second Empire, c'est le Maghreb, la Cochinchine, la Nouvelle-Calédonie et le Sénégal qui deviennent des colonies françaises. En 1894, sous la Troisième République, est créé le ministère des colonies, puis l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. L'objectif affiché de cette colonisation était d'apporter la civilisation, alors bien sûr, entre guillemets, les propos de l'époque, à des races que la France jugeait inférieures. On obligeait à l'époque les, entre guillemets, indigènes des colonies à devenir français. Pendant près de 4 siècles, les colonisés et les esclaves ont été condamnés aux travaux forcés, bafoués dans leurs droits humains les plus élémentaires. Beaucoup sont morts en combattant dans les guerres mondiales aux côtés des Français. Peut-on reprocher aujourd'hui aux Algériens, Marocains, Maliens ou Sénégalais ou autres de choisir la France comme pays de résidence? Eux, dont les ancêtres ont été forcés d'apprendre la langue, l'histoire et la culture et qui ont été les grands sacrifiés de cette mission, entre guillemets, civilisatrice. Donc voilà, ça c'était pour le premier préjugé. Plutôt intéressant ces petites fiches parce que des fois on manque un peu d'arguments. Et le deuxième, pour répondre aux préjugés sur le même principe, c'est on est envahi, c'est l'invasion, voilà, il y a de tous les côtés, on va pas pouvoir vivre en France, voilà. Bah, influencé par les discours politiques et médiatiques, par rapport à ce phénomène de l'immigration, c'est considérablement amplifié et qui est devenu un problème, c'est ce que beaucoup pensent, voire un danger. Voilà, le problème avec l'immigration, c'est le nombre. Avant, le taux était raisonnable, rien à voir avec l'invasion des migrants qu'on connaît actuellement. Cette nostalgie du, entre guillemets, bon vieux temps où le taux de migration était raisonnable et l'intégration des migrants possible n'est basée sur aucun argument tangible. La proportion d'étrangers en France est quasiment stable depuis 80 ans. En 2013, on comptabilise 7,4 millions d'immigrés présents sur le territoire français, soit 11,6% de la population. Avec ce taux d'immigration, la France se classe au 7e rang mondial. Voilà, une personne née en Suisse et qui a obtenu la nationalité française fait partie des 2,7 millions d'immigrés français. C'est 4,1% de la population qui vit en France. Elle est française et immigrée. Une autre personne de nationalité algérienne qui vit en France depuis 40 ans est une immigrée étrangère comme 4 millions d'autres personnes en France. Cela représente 6,1% de la population. Bon voilà, donc par rapport aux chiffres, l'autre sujet qui focalise beaucoup, c'est les peurs, c'est que c'est par rapport à l'immigration clandestine. Voilà, il y a beaucoup qui regardent un peu trop la télé, qui voient les images de pirogues surchargées de passagers, les naufrages de ces embarcations de fortune en pleine mer, que véhiculent nos médias, donnent l'impression que des flots de clandestins tentent régulièrement de débarquer sur les côtes européennes. Au-delà de l'émotion que ces drames suscitent, ces images alimentent une peur panique de l'invasion. Même si elle reste difficile à mesurer, l'immigration clandestine est estimée en France par les gouvernements, alors soit de droite, soit de gauche, donc pour cela ils s'entendent plus ou moins, comprise entre 200 000 et 400 000 personnes, soit au maximum 0,6% de la population française. Voilà, hein, la France n'est pas davantage, entre guillemets, envahie, hein, comme certains le pensent ou certaines, par les migrants et migrantes d'Afrique subsaharienne, qui ne représentaient en 2004 que 12% des migrants, alors que 35% d'étrangers venaient de l'Union européenne. Donc voilà un petit peu ces deux petites fiches. Donc voilà, on vous laisse aller voir hein, ce que ça donne. Donc vous répondez, ça s'appelle répondre aux préjugés. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Et on va continuer un petit peu sur une petite page migrants. On va refaire un petit tour en Allemagne, on avait beaucoup parlé il y a quelques émissions de cela, des violences contre les réfugiés. On va refaire un petit point parce que ça n'avance toujours pas, en tout cas au niveau des investigations et des condamnations. Voilà, donc des centaines d'attaques contre les réfugiés ont eu lieu depuis janvier dernier en Allemagne et en toute impunité. Une enquête a été menée pendant 2 mois, par 15 journalistes de l'hebdomadaire Die Zeit, papier et en ligne, à partir de données mises à disposition du public. Ces chiffres correspondent aux attaques enregistrées du 1er janvier au 30 novembre 2015 et ils sont plus élevés que les 120 actes officiellement listés par le ministère de l'Intérieur allemand. Les résultats de cette enquête montrent à quel point l'État allemand se révèle incapable de faire quoi que ce soit face aux violences qui prennent les réfugiés pour cible. En septembre dernier, la chancelière Angela Merkel avait promis de poursuivre voilà, tous ceux et toutes celles qui attaqueraient les réfugiés par tous les moyens disponibles. Bah, aujourd'hui, il paraît évident que cette promesse était illusoire. Il ne se passe pas une journée sans qu'un foyer de réfugiés fasse l'objet d'attaques violentes. Parfois, ce sont des pavés ou des cocktails Molotov. Parfois, ce sont des départs de feu ou des inondations. Dans la majorité des cas, la police et la justice sont dépassées et les responsables de ces attaques s'en tirent en toute impunité. Les journalistes ont effectué des recherches sur 222 attaques où des réfugiés ont été soit blessés, soit auraient pu l'être. Eu égard à la gravité de l'attaque, pratiquement aucune de ces affaires n'a été résolue. Seulement 4 d'entre elles ont abouti à une condamnation d'un agresseur et 8 autres ont abouti à des mises en accusation. Cela représente tout au plus 5% des cas enregistrés. En outre, la police ne semble avoir été capable d'identifier des suspects que dans 25% des affaires. Les 75% des cas restants restent non résolus, donc, alors que jusqu'à présent, 104 personnes ont été blessées. Voilà, les journalistes ont examiné les 747 agressions punissables par la loi à l'encontre de foyers de réfugiés et ont retiré les plus mineurs tels que les graffitis, la propagande et les insultes verbales. Les incidents les plus sérieux qui restaient sont ceux qu'ils ont examinés. Le bilan qu'ils en font est le premier du genre sur la façon dont le monde judiciaire allemand a réagi aux actes de violence les plus graves. Les incendies criminels sur les foyers de réfugiés sont devenus un phénomène répandu et dangereux de janvier à novembre. Les nombres d'attaques de ce genre a dramatiquement augmenté. Les responsables d'incendies criminels se soucient bien peu de savoir s'ils font des blessés ou des morts. La moitié des 93 incendies volontaires commis cette année ont visé des bâtiments habités. C'est une simple question de chance qu'aucun réfugié n'ait perdu la vie jusqu'à aujourd'hui. Dans le même temps, le nombre d'incendies criminels contre des bâtiments inhabités a aussi augmenté. Donc voilà. Voilà, si le gouvernement va vraiment poursuivre les criminels responsables de ces attaques par tous les moyens possibles, disponibles, comme il l'avait dit, il devrait le faire bien plus que ce qui a été fait aujourd'hui. Voilà, ça se passe en Allemagne. On sait qu'aussi en France, voilà, il y a quelques soucis également, mais heureusement, beaucoup moins que là-bas. Et pour finir, avant de repasser une petite pause musicale, voilà, une histoire que vous avez sûrement entendu parler qui s'est passée à Rennes. Voilà, dans la nuit du 2 au 3 décembre dernier, ça permettra aussi de faire un petit lien avec la musique suivante. Voilà, donc un Sénégalais de 27 ans donc a reçu 5 balles dans le corps. C'est un policier qui a tiré, hein, l'incompétence manifeste des agents de l'ordre couverte plus que jamais par l'état d'urgence. Voilà qui explique probablement le drame. Voilà, dans cette nuit-là, voilà, un ami lui a proposé de venir dormir chez lui, ce qu'il a fait. Au cours de la nuit, il s'est réveillé comme pris d'une crise d'angoisse. Son ami est venu le calmer, il s'est rendormi, puis il s'est de nouveau réveillé et est allé chercher un couteau à pain avec lequel il s'est automutilé. Son ami a essayé de le maîtriser sans y parvenir et ce faisant, il a été blessé. Cet ami a donc appelé les pompiers au secours. Les policiers sont arrivés sur les lieux face à cet homme armé d'un simple couteau à pain. La police, qui est pourtant suréquipée, on le rappelle, hein, taser, gazeuse, matraque, flashball, eh ben, l'a abattu de 5 balles dans le haut du corps. Donc voilà, cet homme s'appelait Babacar Gueye, il était sénégalais, il avait 27 ans. Il y a eu un rassemblement, une marche en hommage à Babacar, c'était samedi dernier là, à midi, voilà, à mon repas. J'espère qu'il y a eu du monde, j'ai pas eu trop de nouvelles. Donc voilà, c'est à un moment donné, voilà, je pense que il y a pas directement un rapport avec l'état d'urgence, mais on sait que maintenant les policiers vont ouvrir un peu le feu sur tout et n'importe quoi et n'importe qui. Et on sait qu'aussi que vu les lois qui risquent de sortir avec l'armement des polices municipales, encore moins formées que les nationaux là-dessus, bah, ça va donner du lourd à mon avis. Donc voilà. Donc du coup, on va se faire une petite pause musicale et donc ça va être Brixton 4 avec Police. C'est parti.
Sur le 102.2 de Radio Canus, c'est l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Et puis du coup, on va enchaîner avec la rubrique des luttes sociales. Désolé, je t'ai dehors. Je suis revenu, je t'attends.
Allez, les luttes sociales, encore une bonne page de lutte sociale ce soir, avec Marseille, avec une colère très justifiée, c'était le 6 décembre, une colère, disais-je, très justifiée des privés d'emploi, autrement dit les chômeurs et chômeuses, et c'est une lutte, hein, toujours une lutte des luttes au pluriel, quand même à gogo, pour les primes, les transports, etc., donc des mobilisations qui s'en suivent. pour l'obtention d'un plus sous la forme d'un complément à l'aide d'État. La prime de Noël en faisait partie. Bref, c'est en décembre 2015, hein, aujourd'hui. 17 ans après, donc, les grosses luttes de 1998, eh bien, les élus du département, donc le Conseil général des Bouches-du-Rhône, suppriment la prime et les transports gratuits pour les chômeurs et chômeuses et précaires. Voilà, colère donc et manifestation le 11 décembre devant le Conseil général. On va rester sur Marseille et dans le 10e arrondissement de la ville avec l'entreprise Sodexo cuisine sous blister, hein, pour que je rappelle.
On mange tous les jours.
Pour les prisons, les écoles, les cantines d'entreprise, enfin etc. etc. Et c'était le 8 décembre avec une grève donc chez Sodexo et blocage des portes, pas de livraison donc pas de miam miam. Que justifie cette colère? Eh bien, cette colère ouvrière, hein, c'est clair, comme de l'eau de la Méditerranée sur les rivages marseillais, eh bien, 23 salariés qui étaient touchés par une mise à pied. Et leur faute, eh bien, c'est une poursuite d'une grève sans préavis. Convocation en vue de licenciement, recrutement d'intérimaires pour les remplacer. Ça sert aussi à ça, l'intérim, à casser le mouvement des luttes. Salariés contre salariés, bien évidemment, ça fait le plaisir des patron, justifié selon la direction qui assure 45 000 repas journaliers sous blister. Donc un marché juteux, un marché public à 150 millions. Ça justifie d'envoyer 23 salariés à aller pelleter le charbon. Alors précision, il y a eu un accord quand même syndicat-direction qui avait été signé auparavant. Donc, les conditions de travail étaient en suspens et effectifs manquants, enfin tout le Saint-Frusquin, quoi. Les salaires, évidemment, désuets, puisque c'est le SMIC, et des primes étaient exigées par les salariés de Sodexo. À Saint-Brieuc, cette fois, c'est dans les Côtes-d'Armor, avec le 8 décembre, c'était le 8 décembre du moins, une grève et manifestation pour les agents et agentes départementaux. 200 personnes avec des revendications à la clé, évidemment. Amélioration des conditions de travail, parce que, bien sûr, dégradées. Moyens insuffisants, efforts non reconnus, pression accrue, absence de dialogue social. Bref, tout ce qu'on entend au jour d'aujourd'hui. La manif était devant l'hôtel départemental avec l'intersyndicale Sud FO et aussi la CFDT. La Poste, cette fois, on n'arrêtera pas encore avec les grèves continuelles à La Poste. Cette fois, c'est le bureau de Rochefort du Gard, avec une grève de 7 postiers sur 11 et une grève illimitée, on va dire animée par la CGT, qui dénonce les conditions de travail, donc les négociations au point mort, des avancées... Pas tant que ça, une tournée de distribution supplémentaire, etc., etc. Puis plus rien de la part de la direction et sur les autres points de revendication que les postiers avaient maladroitement mis en sommeil. Aïe, 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 quelle erreur. Et sournoisement, la direction projette d'utiliser encore une fois l'intérim pour casser la grève. Et invite aussi les usagers à intervenir pour le respect du service public. C'est vraiment le monde à l'envers, hein, complètement là.
Ouais, du coup, par rapport au poste, il y a très rapidement aussi à Neuilly, donc à plus de 80%, voilà, les factrices et facteurs de Neuilly depuis le 29 octobre 2015. Contre un projet de restructuration devant supprimer 14 emplois, la Poste ne cède rien, mais les grévistes sont déterminés à gagner et à faire aboutir leurs revendications. Il y a une caisse de grève en ligne, donc vous pouvez donner un peu de thunes pour les aider, parce que bon, la limite c'était aujourd'hui normalement, parce que la Poste va sécher les payes au maximum, donc avec des payes à 0 euro. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, vous mettiez soutien postier en grève de Neuilly, et après caisse de grève en ligne, je pense que vous allez trouver, n'hésitez pas à y donner un peu de thunes là-dessus, quoi.
Rouen maintenant avec le 8 décembre avec une grève pour l'emploi qui disparaît petit à petit chez le groupe Lacroix. Alors ce groupe fait plutôt dans la signalisation, c'est la signalisation routière. Hein. 7 postes donc vont disparaître à Rouen. C'est la défense de l'emploi, donc, mais pas tout à fait, puisque les salariés bagarrent pour les conditions de départ, finalement, au bout du compte. Alors, c'est tout autre. Le PSE date du 12 novembre dernier et contient la fermeture de 14 agences. 64 emplois d'assistants commerciaux, magasiniers, disparaîtront en janvier, à Rouen, et ailleurs aussi. Hein. Là aussi, la direction a montré une bonne gueule, puisque en mai et juin de cette année, eh bien, elle proposait à ses employés un questionnaire de satisfaction. Rien que ça. Donc les salariés se sentent bananés. Et donc à cette époque, ben, bananés, bonne santé. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que, enfin, parmi tous ces problèmes, et la bonne nouvelle, ben, c'est que 20 postes vont être créés sur une plateforme commerciale. Donc 20 personnes embauchées en CDD à perte de vue. Je continue avec Royan. Royan, ben, c'est dans les Charentes-Maritimes, hein, et c'est encore une fois, ben, la Poste, hein, j'y reviens, donc à la Poste. Ouais. Et ça évoque, la Poste de Royan, bien entendu, ça évoque, cette ville évoque plutôt les vacances, l'été. Eh bien, aujourd'hui, ça évoque plutôt la grève. Pour le 11 novembre, donc, avec Sud et Sud PTT, donc, et CGT, PTT aussi, faudrait qu'ils arrêtent de dire Sud PTT, ça existe plus, ça, PTT, c'est Sud, la Poste.
La Poste,
et bon, et pour donc les bureaux et sites de Royan, de Saujon, de Cause, de La Tremblade également. Alors qui dit distribution perturbée dit pas de plis électoraux dans les boîtes. Aïe aïe aïe. Comment faire pour un deuxième tour régional? Eh bien, on y est parvenu avec réquisition de 13 fonctionnaires. On ne lésine pas à la Poste. Justement, c'est le but de cette grève, des embauches, le paiement des heures supplémentaires, etc. Et un piquet de grève était envisagé à Royan. À Aubenas, dans l'Ardèche, même motif, même boîte, même motif, même punition sur la plateforme. Donc le 10 décembre, c'est la plateforme de distribution, hein, donc le 10 décembre et aussi le 11 avec Sud, donc PTT. Là, Itou, c'est la surcharge occasionnée par les pubs électorales, à mauvais salaire, mauvais travail. Ou pas de travail du tout, d'ailleurs, c'est QFD, hein, parce que en plus, la Poste, faut le dire, a reçu de l'État, c'est-à-dire nous, les citoyens, 60 millions d'euros pour cette distribution spéciale matraquage. C'est beau, hein.
Ouais, quand même. C'est pour le premier tour, il y avait même pas 50% qui ont voté. Oui, c'est vrai que c'est... C'est beau.
Donc là aussi, conditions de travail pénibles, 24 tournées au lieu de 29, faute assurée, donc tri, manque d'effectifs, etc. etc. sont les malheurs donc des postiers et postières. La TECOER maintenant, c'est du côté de Toulouse. Voilà, donc la TECOER, c'est un nom qui ne dit rien à personne, évidemment. Tant on pensait qu'il avait disparu de la circulation dans les airs, puisque c'est une entreprise qui a été créée en 1917 et qui construisait des hydravions. Voilà, donc aujourd'hui, ce groupe équipementier est toujours dans l'aéronautique, basé à Gimont, près de Toulouse. Les salariés s'offrent un moment grévé, 60 à 70% de participation sur les lignes de production. Cette grève lancée par les ouvriers eux-mêmes, sans appel syndical, s'il vous plaît. Alors à noter toutefois quand même que la CGT a proposé ses services, les autres étant absents. Alors Kourou, ouvrier ici, quand ils ont appris que les Ouistiti de la direction fraîchement installée auraient puisé dans la caisse, alors entendez par là, ce serait octroyé des augmentations pendant que les salaires des travailleurs, eux, étaient gelés pour l'année 2015, bien que la situation financière ait été assainie, mais cela n'est qu'une partie du Kourou, puisqu'il y a aussi un manque d'informations sur les projets industriels, alors que des investisseurs ont intégré le capital. Alors des bruits évidemment qui courent, il y aurait sur-effectifs en bureau d'études, des départs aussi incompréhensibles de personnel qualifié, une reconnaissance absente, délocalisation, climat social durci, sanctions, licenciements, bref, un malaise qui s'installe, les salaires aussi, bien entendu, faut les rajouter. Bref, la TECOR navigue dans la purée de pois. La direction, au 12 décembre, n'a pas daigné répondre aux grévistes. Grève de 2 heures le 2 décembre, puis le 3, puis le 8 décembre. Alors, pour information, suite à un mouvement syndical qui s'en était suivi, il y avait eu une répression, c'était en Tunisie, puisque une filiale, la Telec Fouchana, existe donc en Tunisie. Il y avait eu un mouvement de solidarité d'ailleurs important pour le syndicat UGTT de Tunisie, qui avait été mené, faut le dire aussi, par des travailleuses. Dire aussi que la TECOR, quand même, c'est pas une boîte qui est malheureuse, puisqu'elle fournit quand même en matériel divers et varié Airbus, Boeing, Dassault, et puis des tas de filiales sur la planète, dont la Telec, c'est cette filiale de Tunisie qui fait dans le câblage électrique. La clinique de Pont-de-Chaume, alors j'en ai parlé un certain temps ici, un certain nombre de fois, j'ai bien suivi là cette lutte à Montauban, donc là c'est une suite encore, mais une fin également. Après 51 jours grévés, un protocole de fin de conflit a été signé. 4 grévistes de la faim quand même pendant 10 jours pour l'obtention de 3 embauches d'aides-soignants, réorganisation des conditions de travail, fin de toutes les grilles de salaires en dessous du SMIC, évolution des salaires tous les 2 ans, alors qu'auparavant c'était 8 ans, tous les 8 ans, une prime à 400 euros. Alors, pour la CGT, ce sont des avancées, la direction n'ayant que trop peu bougé. Il me semble personnellement que les grévistes se sont piégés avec cette grève de la faim quand même de 10 jours, une gréviste ayant été quand même hospitalisée. Et aussi, il faut signaler qu'ils ont reçu pour le mois de novembre, eh ben là également, 0 euro. Donc il y avait quand même 80% de grévistes parmi les soignants et soignantes qui ont suivi. Une occupation également de l'ARS avec 100-150 personnes à Toulouse. Et comme dit le secrétaire CGT, il faudra continuer à se battre au quotidien pour nos droits, nos acquis. On est tout à fait d'accord avec lui. Alors pour info également ici, l'intervention... Il y a eu l'intervention de 2 médiateurs de l'État, donc probablement de la préfecture, ça n'a absolument rien donné. L'accord a été signé le 11 novembre, après avoir vécu donc un conflit violent, une vraie lutte de classe de travailleurs et travailleuses de la santé, selon les commentaires d'après-lutte. Les grévistes touchant un tiers quand même, ils ont réussi à grappiller un tiers du salaire brut de novembre. Nous sommes loin du compte, selon les grévistes. Parce que, bien sûr, la grève, c'est un investissement. À Dinan, cette fois, dans les Côtes d'Armor aussi, donc c'est le 14 décembre, avec un fabricant de biscuits à la mode bretonne qui essuie une grève. C'est la société Loc Maria, avec une totale participation, puisqu'on peut parler de 100% de grévistes, selon la CGT. Les négociations salariales n'aboutissent pas, du moins en faveur des salariés. Pour appuyer les revendications, rien de mieux qu'un rassemblement. Eh bien, c'est fait. La direction espère une reprise, parce que ça marche à plein tube en ce moment, donc le biscuit. Donc CQFD, les ouvriers veulent aussi des biscuits, puisque la société Loca Maria a quand même fait 60 millions de chiffre d'affaires, 60 millions d'euros. Et ensuite, c'est une grève à peu près identique aussi au Puy-en-Velay pour les aides-soignantes. C'était ce 14 décembre, 16 personnes de la Mutualité française, 16 personnes sur 17 de la Haute-Loire, Toutes et tous sont en contrat à temps partiel, à taux horaire du SMIC. Les revendications, c'est revalorisation des salaires. Mauvaise réponse de, il y a une mauvaise réponse de la direction. Réponse à la fois donc des exploités, c'est une grève pour obtenir 1,50€ de l'heure, un 13e mois, respect du diplôme et la direction, du moins les ressources humaines, la direction des ressources humaines s'en tamponne. Profondément le coquillard pour le moment et envoie la patate chaude à l'ARS. Et pour terminer, nous irons du côté de Gonfreville en Seine-Maritime avec Total Grève chez Total. Initié le pétrolier, bien entendu, donc initié une grève initiée par la CGT Raffinerie de Normandie, stoppé, la production a été stoppée dès le 14 décembre, 50 personnes sont mises en grève sur 1000, selon la direction, revendication salariale pour les employés, alors revendication salariale et prime, évidemment, 2% ont été obtenus. Alors un bon point, pas tellement, puisqu'à Gonfreville, on en veut plus et la grève continue. Voilà.
Donc j'en rajoute un petit coup.
Bien sûr.
Dérangez pas. Donc du coup, juste pour faire un petit point, ça a été abordé la semaine dernière, mais vous lire le communiqué de l'Union syndicale solidaire par rapport à l'affaire Tefal. Enfin, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Ça fait un moment que ça dure. Et donc, vous le savez sûrement, du coup, à la suite de l'audience du mois d'octobre, du 16 octobre dernier, avait vu comparaître à la suite d'une plainte de l'entreprise Tefal une inspectrice du travail, Laura Pfeiffer, et un ancien salarié lanceur d'alerte, notamment pour vol et recel de documents. La décision donc a été rendue. L'inspectrice du travail a été condamnée sur les deux chefs d'accusation à 3 500€ d'amende avec sursis. De plus, l'ex-salarié lanceur d'alerte poursuivi pour vol a été condamné à 3 500€ d'amende avec sursis. Ces condamnations sont inscrites au casier judiciaire. L'ensemble des condamnations est bien au-delà des réquisitions déjà fortes du procureur. Pour l'Union locale solidaire, il n'est pas possible de condamner un lanceur d'alerte pour avoir joué ce rôle essentiel d'aiguillon. Il n'est pas possible de condamner une inspectrice du travail pour n'avoir fait que son travail. Le déroulé de cette procédure et du procès lui-même constitue une sévère mise en garde à destination des salariés et des agents qui ont pour mission de contrôler les entreprises. En effet, à l'audience du 16 octobre, a vu la mise en cause d'un lanceur d'alerte pour avoir mis en œuvre ce droit, ainsi que celle d'une inspectrice du travail pour avoir exercé ses missions de base, puis dénoncé les pressions visant à faire obstacle à son travail. Voilà, donc Laura Pfeiffer et le lanceur d'alerte de Tefal ont subi un procès honteux, car il est le symbole de la collusion entre le patronat et les hauts cadres de l'État, car à aucun moment les ministres du travail successifs n'ont été aux côtés de Laura Pfeiffer, et car à travers ce procès, ce sont les outils de défense des travailleurs et travailleuses qui furent mis en cause. Ce jugement est inacceptable, et donc l'Union locale syndicale solidaire continuera à soutenir le combat en appel pour la relaxe aux côtés de Laura, de l'ex-salarié lanceur d'alerte et des syndicats de l'inspection du travail. Voilà, il est urgent que la ministre du Travail affirme son soutien aux missions de l'inspection du travail, à ses agents et tout particulièrement à Laura Pfeiffer. Moi, je pense qu'au soutien du ministre, on peut toujours se gratter, mais au moins continuer la solidarité jusqu'à l'appel, ça pourrait être déjà pas mal. Et une lutte qui nous vient d'Allemagne et des prisons d'Allemagne, avec un appel à solidarité avec les grévistes de la fin de la prison de Burgsbach. Voilà, donc ça remonte un petit peu, mais en mai 2014, le syndicat de prisonniers a été créé à la prison de Berlin-Tegel. Depuis, elle s'est étendue à plus de 70 prisons en Allemagne et en Autriche, avec plus de 800 hommes et femmes allemands, migrants, émigrants, prisonniers, prisonnières qui l'ont rejoint. Donc GGBO est un syndicat local autonome pour tous les travailleurs incarcérés sans distinction de race et de sexe. Ses principales revendications, notamment par rapport au travail, sont un salaire minimum de 8,50€ de l'heure, l'assurance sociale et la liberté de s'organiser pour tous les prisonniers et prisonnières. Donc ce syndicat réagit à la situation de la plupart des travailleurs et travailleuses exploités dans le complexe de la prison industrielle allemande. 45 000 sur 65 000 prisonniers et prisonnières travaillent dans 12 des 16 États fédéraux allemands. Ils et elles sont soumis à la contrainte du travail, ils et elles sont payés de 1 à 2 euros par heure, et les grèves ainsi que d'autres actions de main-d'œuvre sont considérées comme des mutineries. Aux côtés des administrations d'État fédéral, l'industrie locale et les grandes entreprises profitent de l'exploitation de la main-d'œuvre bon marché que représentent les prisonniers et prisonnières d'Allemagne. Le 1er décembre dernier, 200 prisonniers, dont beaucoup sont membres de syndicats, ont ralenti leur rythme de travail et commencé une grève de la faim collective. Leurs demandes sont donc un salaire minimum, une assurance sociale, la liberté de syndicalisation et la reconnaissance du syndicat, un terme à toute répression contre les membres et militants de syndicats, l'abolition du travail forcé et la solidarité intérieure et extérieure. Les jours avant et après le début de la grève, de la faim, les prisonniers et prisonnières militants à Bourzbar étaient soumis à une sévère répression de la part des autorités de la prison. Isolement, raids dans les cellules, transferts répétés, interceptions et fuite des lettres et d'autres documents. Voilà, même si ce syndicat ne remet pas en cause la prison en soi, il limite leur demande d'amélioration concrète des conditions de vie et de travail derrière les barreaux. Eh ben, il y a un soutien de cette lutte. Pour la première fois dans l'histoire des luttes anti-prison en Allemagne, des prisonniers et prisonnières s'unissent sur la base des exigences de lutte de classe claire. Ensemble avec les migrants et les migrantes, ils et elles appartiennent à la partie la plus dévaluée et la plus précaire de la classe ouvrière en Allemagne. La grève de la faim de prisonniers et prisonnières, Bourzbar, est le premier conflit ouvert du syndicat, la première grève de la faim collective des prisonniers et prisonnières en Allemagne depuis les 20 dernières années et une escalade sans précédent de la lutte des classes dans les prisons allemandes. Donc, il y a une demande à ce que les camarades et tous les prisonniers et prisonnières rebelles à l'étranger de soutenir cette grève de la faim. Voilà, en envoyant des lettres, voilà, aux porte-parole des syndicats, en faisant connaître la grève, c'est ce qu'on fait ce soir, du coup, de la faim dans leur ville et les prisons, faire des actions de solidarité et d'envoyer les photos et renforcement, de nos propres luttes contre l'exploitation et l'incarcération.
On va essayer de suivre ce mouvement,
un petit peu de ce qui se passe.
Ça paraît avoir des nouvelles.
Très important. Peut-être du coup refaire peut-être une toute petite pause musicale. Si on peut la lancer, on la lance. Puis on verra ce qui nous reste pour finir l'émission.
Eh ben c'est parti. On va écouter Parabellum. Pour les latinistes distingués, ça fait Parabellum. J'en ai rien à foutre qu'ils disent Parabellum. Là, on verra bien. Hein. Donc, c'était un peu une chanson sur le ton de l'ironie, évidemment, on a bien compris. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires jusqu'à 21h. Et on va, composer.
Quelqu'un qui a renversé un tabouret là-bas.
On va composer avec autre chose.
Voilà, un dernier petit sujet. En ayant vu que les camarades de la CGA parisien avaient remis au goût du jour un écrit de la CGA par rapport au confusionnisme, j'en profite pour vous le relire. Donc voilà, le confusionnisme, un danger pour les luttes. Il nous paraît important de faire une mise au point sur le confusionnisme politique qui gagne du terrain de jour en jour. Qu'est-ce donc ce confusionnisme politique ? Le confusionnisme politique est le fait que des courants conservateurs et réactionnaires appartenant à la sphère de l'extrême droite s'approprient et utilisent des thématiques habituellement portées par des courants situés à l'opposé de l'échiquier politique. Ils investissent ainsi les terrains de lutte de leurs opposants et opposantes politiques, anticapitalisme, écologie, critique des religions, etc., en utilisant une rhétorique qui leur est proche pour servir en réalité leur propre idéologie. Le confusionnisme se développe sur une culture politique, sociologique et historique faible et sur l'idée que la « politique » entre guillemets désigne uniquement les actions menées par les classes dirigeantes amenant les individus à se proclamer « entre guillemets apolitique ». Le confusionnisme se nourrit également des communautés émotionnelles entretenues par l'industrie de l'actualité et de la culture qui crée une union des spectateurs et spectatrices sur des faits divers et des drames. Une critique du confusionnisme sans argument ni explication ne permet pas de freiner son développement et les dangers qui en découlent. Ce type de critique peut au contraire entraîner un repli sur soi de certains et certaines militants militantes ou, de la même manière, un éloignement d'autres militants et militantes ou de sympathisants sympathisantes qui voient se multiplier des rejets qu'ils et elles ne comprennent pas forcément. Il faut bien faire la différence entre celles et ceux qui sont dans la confusion ou semblent y adhérer et ceux qui l'organisent. Rejeter uniformément n'est pas raisonnable, nous avons tous des trajectoires, des sensibilités et des parcours différents. C'est à la confusion volontaire et organisée qu'il faut nous attaquer principalement en clarifiant la façon dont nous portons nos idées et nos luttes et en mettant en lumière les discours relevant du confusionnisme sur ces mêmes problématiques. Donc nous allons tenter ici, dans cet écrit, de faire un premier état des lieux non exhaustif, un des thématiques privilégiées par les confusionnistes professionnels. Il s'agit à chaque fois de souligner ce que nous considérons comme des raisonnements ou pratiques confusionnistes et d'expliquer que si nous abordons également ces thèmes, ce sont pour des raisons différentes, avec des revendications et avec un projet de société radicalement opposé. Donc voilà, un petit tour d'horizon des thématiques confusionnistes. Donc l'antisystème confusionniste, le mot antisystème est souvent repris par l'extrême droite. Il s'agit de critiquer le système, cause entendue pour toutes et tous les libertaires, mais de quelle manière ? On remarque en général une négation de l'existence des classes sociales et des rapports d'exploitation, de domination et de contestation au sein de la société. Le système, entre guillemets, est envisagé comme un bloc uniforme, ce qui fait considérer certains progrès comme faisant partie du libéralisme. Or, il n'est pas du tout inscrit dans le libéralisme que les enfants ne doivent pas travailler, que les dépenses de santé doivent être socialisées, etc., etc. Ce sont les luttes sociales qui permettent d'obtenir certains acquis et qui peuvent être rapidement remis en cause par les tenants du pouvoir du système, l'État et le patronat. Ainsi, si l'extrême droite peut se déclarer révolutionnaire, c'est avant tout parce qu'elle considère le système comme trop libre, pas assez autoritaire et menaçant l'ordre capitaliste, sexiste, raciste et néocolonial. Au contraire, nous sommes révolutionnaires pour obtenir une véritable égalité politique, économique et sociale. Un deuxième thème, c'est la critique religieuse comme paravent d'un racisme. L'islam ou la religion juive sont souvent critiqués par le biais de la laïcité ou de l'athéisme. Pourtant, la critique des religions, thématique anarchiste forte, ne doit pas être l'occasion de se rallier au raisonnement raciste et essentialisant dont nous sommes témoins chaque jour de la part de politiques d'extrême droite, évidemment, mais dont le discours se répand aussi à gauche, voire à l'extrême gauche. La critique des religions doit viser un athéisme militant, général et anticlérical contre les dogmes religieux. Un autre thème, l'anticapitalisme nationaliste. Le nationalisme est une des bases fortes de l'extrême droite et de la droite. On peut le retrouver ainsi à gauche, voire à l'extrême gauche, comme une forme de rempart contre le capitalisme mondialisé. On trouve souvent des propositions économiques de gauche et d'extrême gauche utilisant l'État et les entreprises nationales comme remède à la crise ou aux marchés financiers internationaux. Si nous sommes contre les marchés financiers, nous sommes aussi pleinement anticapitalistes et anti-étatistes. Et donc, il nous faut privilégier les réponses en rupture avec le système sans aide de l'État, non cantonné à un seul pays. Il nous paraît illusoire de vouloir combattre un capitalisme international fort sans un anticapitalisme international fort aussi. Un autre thème, l'anti-industrialisme et l'écologisme essentialiste. Les confusionnistes critiquent la société industrielle et destructrice des ressources naturelles en faisant l'idéalisation de l'artisanat et de la nature. Cela conduit souvent des théories écologistes portées sur l'individualisation des comportements, entre guillemets acheter écolo comme outil d'émancipation, et donc culpabilisante ainsi que sur une essentialisation des comportements humains conduisant à une négation du patriarcat, vu comme un phénomène phénomène naturel, une défense de la famille hétéronormée et un refus de l'accès libre et gratuit à l'IVG. Si nous critiquons la société industrielle, c'est avant tout par son côté aliénant, autoritaire et par son appropriation des ressources naturelles non partagées et gâchées. Les modes de lutte que nous privilégions sont les luttes collectives, créant un rapport de force et non un simple comportement individuel. En conclusion, le confusionnisme crée des transfuges, des parcours étranges avec des personnes commençant à l'extrême gauche pour finir à l'extrême droite. Il est difficile d'expliquer ces parcours individuels, mais on peut dire que le confusionnisme en est un terrain propice. Le confusionnisme est aujourd'hui abondamment relayé par les médias qui aiment le sensationnalisme et les prises de position incohérentes. Il trouve une large audience dans les médias généraux et sur Internet. Une des particularités générales du confusionnisme est la hiérarchisation des oppressions et des luttes. Le fait de considérer une oppression et donc la lutte correspondante comme au-dessus de toutes les autres est déjà une grande porte ouverte à la confusion, peu importe ce que l'on pense du reste du moment qu'on est d'accord sur ça. Les réflexions sur l'intersectionnalité des oppressions peuvent donc jouer un rôle pour la prévention et la lutte contre la confusion politique. L'intersectionnalité étudie les formes de domination et de discrimination non pas séparément, mais dans les liens qui se nouent entre elles, en partant du principe que le racisme, le sexisme, l'homophobie ou encore les rapports de domination entre catégories sociales ne peuvent pas être entièrement expliqués s'ils sont étudiés séparément les uns des autres. D'une manière générale, il est important d'identifier les discours confusionnistes et les déconstruire, ceux-ci profitant essentiellement à la diffusion de l'idéologie de l'extrême droite et des groupes fascistes, le développement et la diffusion de nos propres analyses et revendications, ainsi que notre investissement sur le terrain des luttes sociales doivent être un rempart contre la montée de ces pensées réactionnaires et autoritaires au sein de la société. J'ai presque fini à l'heure. C'était chaud, mais ça va être bon. On vous conseille un site qui s'appelle confusionnisme.info. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a pas mal de trucs qui sont expliqués là-dedans. Ouah, on arrive au bout. C'était juste, hein, mais voilà, il y a la lumière du frigo qui s'installe et qui est presque prêt.
Pile poil, oui.
Donc voilà, bon, on va vous dire du coup, pas la semaine prochaine, parce que petit break, hein, peut-être, hein, parce qu'on va être le 23, ensuite le 30.
Comment
voilà.
Il n'y aurait pas d'émission.
Ça va être un peu compliqué, hein, à mon avis, mais on va voir ce qu'on peut faire. Si vous n'entendez pas, ça veut dire qu'on n'est pas là. Vous réécoutez toutes les émissions depuis le début de l'année sur le blog des émissions, puis voilà. Et puis si on est là, on sera là. Entre-moi, on se retrouvera début janvier.
Ah, dis donc, la pirouette.
Hein, t'as vu ça? Ouais, j'essaye un peu, ouais.
Ouais, non, mais c'est bien. Non, mais on verra bien, hein, de toute façon. Voilà. On essaiera de faire quelque chose.
On vous invite au moins à la permanence de ce samedi-là, déjà aussi.
Fait, déjà,
15h, 19h, 8 rue Diderot, la Plume Noire.
Voilà.
On laisse la place, du coup.
Et on va laisser la place, à la lumière du frigo, et on va vous passer quand même notre générique de fin, et on vous dit quand même peut-être à mercredi. Ciao.